Bonjour, c'est un fantôme obsédant, peut-être le plus obsédant de l'histoire de France ces temps-ci, le fantôme d'un vieil homme à la voix chevrotante, issu des années noires, le fantôme de Philippe Pétain. Car le maréchal est partout, par les temps qui courent, au cœur des déchirures de la famille Le Pen, dans la bouche du premier secrétaire du Parti Socialiste, et même dans la polémique entre Emmanuel Todd et Manuel Valls. Alors on s'est dit qu'il était peut-être temps de s'arrêter sur l'image de Pétain et de Vichy, et de remettre les pendules à l'heure sur ce sujet hautement polémique, en compagnie de deux éminents historiens. Marc Ferraud, je crois que vous avez été en France le premier biographe de Pétain dans les années 80.
Le premier historien biographe
de Pétain, et on se souvient aussi de vous, évidemment, pour les histoires parallèles d'Arte, pour lesquelles vous étiez venu sur le plateau d'Arrêt sur Image il y a déjà bien longtemps. Denis Péchanski, vous êtes historien aussi, auteur de nombreux livres sur la période de Vichy, et vous aussi, vous avez tâté un peu de l'audiovisuel, notamment comme co-auteur d'un documentaire diffusé sur France 2 en 2008, consacré à la propagande sous Vichy, c'est bien ça, votre dernier livre sur le camp de Drancy, ça s'appelle Drancy, un camp en France. Alors, Pétain, les éléments de base pour ceux de nos abonnés qui en ignoreraient tout, comment dire, je vais improviser, militaire français, héros de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, comme on dit, prestige immense après la Première Guerre mondiale, d'autant plus que les autres maréchaux de la Première Guerre mondiale sont morts assez rapidement après, donc il était le seul maréchal survivant. Investi des pleins pouvoirs en 1940 après la débâcle française et chef de l'État français pendant 4 ans, de 1940 à 1944 sous l'occupation allemande. Jugé pour trahison en 1945, condamné à mort, condamnation commuée par le général de Gaulle, commuée en échange d'une relégation à l'Île-Dieu, où il finit par mourir en 52, je
51.
Crois. En 51, voilà, j'ai presque sans faute. Presque sans faute. Alors, je disais que Pétain, l'image, le fantôme de Pétain était obsessionnel dans le débat politique ces jours-ci. On va en voir un petit échantillon sur lequel on va ensuite réagir.
Vous savez que vous avez un gaulliste au Front National.
Oui, nous en avons un.
Florian Philippot.
Absolument, au Front National, il y a tout, vous savez.
Oui. C'est un fervent gaulliste.
C'est un grand rassemblement de patriotes.
Oui, fervent gaulliste.
Oui, fervent gaulliste, mais il y a aussi des fervents pétainistes, il y a aussi des fervents patriotes.
Je pense qu'entre Manuel Valls et le président de la République, c'est le glaive et le bouclier.
C'est-à-dire
que François Hollande est un bouclier pour les Français. Et Manuel Valls est un glaive dans les réformes, c'est-à-dire qu'il coupe, qu'il avance. Que les Français veulent tout à la fois être protégés et en même temps ils veulent que ça bouge. C'est un sentiment contradictoire.
Nous avons un Premier ministre qui est optimiste, le taux de chômage est à 10%, il augmente, l'islamophobie se répand, l'antisémitisme se répand, et il trouve que la France va bien. Mais ce type, je veux dire, c'est juste insensé. Vous savez ce qui me vient à l'esprit ? C'est lui qui m'a accusé. Donc,
oui.
Donc j'ai tous les droits en termes de réponse. Pour moi, l'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Lui aussi accusait les Français résistants, je veux dire, d'être des Français pas bien.
En vérité, Vichy fait un pacte avec le diable. C'est qui négocie avec les Allemands et qui dit « on vous donne les Juifs étrangers » sans savoir jusqu'en 42 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, et simplement « vous ne touchez pas aux Juifs français ». On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne s'en sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. En Hollande,
Eric,
en Pologne.
C'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français. C'est pas Pétain.
Ça, c'est la doxa dominante.
C'est Pétain qui a sauvé les Juifs.
Je vous engage.
Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non.
Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%.
Alors, on va passer en revue tous ces thèmes les uns après les autres, peut-être en commençant par le dernier, parce qu'évidemment, c'est le plus paradoxal, entendre dans la bouche d'Éric Zemmour que Pétain a sauvé des Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire de Vichy telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Marc Ferro ?
Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que si on prend le problème en l'abordant par la personne de Pétain, Pétain est essentiellement un homme antisémite. Il n'est pas un antisémite de la mort, et on peut dire qu'il ne l'a vraiment jamais été, même inconsciemment, parce que jusqu'à la fin, la majorité des Français, dont j'étais, n'ont pas imaginé que tous les déportés seraient exécutés, ou qu'ils étaient destinés à l'être. Moi-même, j'ai attendu ma mère. Des tracts communistes disaient que les Juifs qui seraient arrêtés devaient prendre des précautions et quelques bagages. Donc, il y a cet aspect des choses qu'il faut d'abord voir. Mais antisémite, il l'était depuis le début, puisque, avant la guerre de 14, il a refusé une promotion d'un de ses supérieurs parce qu'il était un ami de Dreyfus. Ensuite, pendant la guerre, plusieurs fois, il a eu des mots intempestifs sur ce thème. Pendant l'entre-deux-guerres, on sait très bien qu'il fréquentait des milieux antisémites, mais ça, ce n'était pas un privilège. Beaucoup de Français de la haute société le faisaient, et il avait des individus juifs de ses amis. Chacun avait son ami juif, et Pétain en avait un ou deux, bien sûr, comme tout le monde. Mais personne ne lui a demandé, après l'armistice, que la première mesure prise au Conseil des ministres en 1940, ce serait une loi contre les Juifs. Et c'est de là qu'est partie la légende qu'en France, que c'était les Allemands qui exigeaient ça.
– Qui avaient exigé de Vichy le statut des Juifs et la rédaction d'un statut des Juifs. –
Exactement. Alors que la première mesure qu'il a prise au Conseil des ministres, il y a des témoignages 1, 2, 3, 4, hein, c'est lui qui en a été l'initiative, et c'est lui qui, à Baudouin, un de ses ministres, disait « mais ça, faut en mettre plus » et tout et tout.
– Alors, le statut des Juifs, on peut rappeler quelques mesures du statut des Juifs, ça consiste en quoi ?–
Ben, c'était d'instaurer un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tellement de Juifs, et si possible le moins possible, dans l'université, au barreau, ministres, députés, conseillers municipaux, bref, qui avaient une responsabilité morale et politique, dans le pays.
– Et ça va même au-delà, puisque ça réglemente aussi la place des Juifs dans l'espace public. On leur interdit la fréquentation des jardins publics, ou en tout cas on la limite, on limite la fréquentation des transports en commun. Enfin, il y a aussi toute une série de mesures qui concernent la vie quotidienne.
– Oui, là il faut mesurer parce qu'il y a la zone occupée et la zone libre, il ne faut pas les confondre. D'accord. Il y a une très grande différence entre les deux.
– Absolument. –
Quand il y a eu la zone libre, on se sentait dans un autre pays qu'en zone occupée.
– Denis Péchanski ?
– Oui, simplement pour préciser que l'objectif principal du statut des Juifs, donc du 3 octobre 40, c'est d'interdire la fonction publique aux Juifs. Donc pour un grand défenseur des Juifs que serait Philippe Pétain, c'est un peu particulier.
Certes.
Et en plus, des Juifs français, alors qu'ils étaient évidemment les premiers visés par cette mesure d'exclusion sociale. Et vous avez raison, vous avez toute une batterie de mesures prises, alors soit d'initiatives françaises, et c'était le cas en 40, début 41, y compris les spoliations, soit d'initiatives allemandes dans la combinaison avec les autorités françaises au nom de la politique de collaboration. Bon. Alors, on part, quand même, c'est toujours terrible quoi, de partir de Zemmour pour faire de l'histoire, parce que moi j'ai refusé de répondre à Zemmour, et j'ai dans Facebook, j'ai présenté un petit texte en prenant mes distances vis-à-vis de Serge Klarsfeld, de Robert Paxton et autres, qui sont des amis, mais j'aurais dit, mais au nom de quoi on écrit dans un grand journal du soir ce qu'on pense de ce qu'écrit Zemmour. On lui donne un statut d'historien. On a les plus grands historiens de Vichy qui vont répondre à Zemmour sur Vichy. C'est le piège. C'est comme face aux négationnistes à la fin des années 70. On ne répond pas aux négationnistes. On ne répond pas à Zemmour. En revanche, on pose la question que vous posez, qui est la question du sort des Juifs, du rôle de Pétain, du rôle de Vichy, de la logique. Et ce que dit très bien Marc Ferro, c'est qu'on est dans une logique antisémite, Et effectivement, Pétain était certainement parmi les plus antisémites dans le régime de Vichy, plus même que Laval. Mais on n'est pas dans une logique de déportation pour la mort, on est dans une logique d'exclusion sociale et d'exclusion qui vise en priorité les étrangers. Alors, on dit, bon, il aurait sauvé les Français, mais il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire que les Allemands, dans tous les territoires occupés de l'Ouest, on visait en priorité les Juifs étrangers. Parce qu'ils savaient très bien que si on touchait aux Juifs français, on entraînait un remous dans l'opinion, dans la société française, dans les élites aussi catholiques traditionnelles, qui allaient poser problème.
Voilà, alors il faut le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'alors, sans répondre à Zemmour, hein, je veux dire, qui n'est d'ailleurs pas sur ce plateau, vous êtes ici deux historiens, on est bien d'accord, l'argument de tous ceux qui disent Pétain a sauvé des Juifs s'appuie sur des chiffres. Donc, alors, sans faire de comptabilité macabre, les chiffres de la déportation, en 40, 150 000 Juifs étrangers présents en France, 50 000 sont déportés, 190, c'est-à-dire 1 sur 3, 190 000 Juifs français présents en France, 25 000 sont déportés, c'est-à-dire une proportion beaucoup plus faible.
– Alors un peu moins simplement, parce que bon, on est autour de 320 000 Juifs en France métropolitaine, donc on est en gros à 150, 160 000, 150 étrangers, 160 000, mais vous voyez déjà le problème. Sur les 150 000 Juifs étrangers, il y en a 50 000 qui ont été déportés. Quelle conclusion on va tirer? Si on est dans la même logique, c'est que Pétain a sauvé les Juifs étrangers, puisqu'il y a deux tiers des Juifs étrangers qui ont été sauvés. Vous voyez l'absurdité de la logique qui est à l'œuvre dans un discours, qui est d'abord un discours idéologique.
Est-ce que ce discours est purement idéologique, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie sur aucun fait historique, ou est-ce qu'il s'appuie tout de même sur des connaissances historiques attestées, des pressions de Vichy auprès de l'occupant pour renoncer, par exemple, à la collaboration de la police française à telle ou telle rafle? Est-ce que ça s'appuie quand même sur un fond de quelque chose?
Ah non, mais qui s'appuie, bien entendu, qui s'appuie sur une réalité qui est qu'à partir du moment où il y a collaboration entre deux structures, il y a forcément négociation avec des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. La solution finale, l'extermination des Juifs déportés, y compris dans les territoires occupés, y compris dans les zones sud non occupées, donc avant l'entrée des Allemands en zone sud, la déportation de 10 000 Juifs.
En 1942.
En 1942, entre août et novembre 1942, eh bien, y compris ça, c'est le résultat évidemment de négociations entre deux instances.
Mais qu'est-ce qu'on sait sur ces négociations?
On sait beaucoup de choses sur les négociations, que dans un premier temps, les Allemands disent « Ok, on prend les étrangers, on prend que les plus de 16 ans ». Et là, ça pose des problèmes pour Laval, ça pose des problèmes aussi pour les Allemands.
Laval
est le vice-président. Voilà, en gros, il est chef du gouvernement. Depuis avril 1942, on est à l'été 1942. Il accepte d'imbriquer la logique de Vichy, qui est une logique d'exclusion, dans la logique allemande, qui est une logique de déportation pour l'extermination. Bon. Et dans cette perspective-là, il va évidemment donner en priorité les étrangers. Et puis, il va dire, écoutez, vous voulez déporter à partir de 16 ans. Moi, ça me pose problème, parce que je ne vais pas avoir à gérer les gamins derrière. Donc, il va dire, vous me prenez les gamins avec. Alors, vous savez, comme forme de négociation, là, on n'est pas dans du « il va sauver X ou Y ». Là, il est « comment ne pas avoir de problème avec cette gestion d'enfants laissés seuls alors que les parents sont déportés ». Ça fait partie aussi de la négociation. Et un peu plus tard, on aura les pressions très fortes de l'Église, et en particulier parce que, bien entendu, on attaquait en priorité les Juifs étrangers, il y a une volonté de dénaturaliser tous les étrangers qui avaient été naturalisés depuis 1927, ce qui évidemment transformait une bonne partie de l'émigration juive depuis 1927 en étrangers et donc en déportables beaucoup plus facilement. Et là, l'Église va dire « ça n'est pas possible », alors que Laval avait déjà signé. L'Église bloque, Pétain le signifie, on ne dénaturalisera pas. Mais il ne faudra pas oublier...
C'est-à-dire que Pétain accepte l'argument de l'Église.
Oui, et puis vous savez, quand on voit l'impact qu'a eu la protestation de six évêques ou archevêques, six, à l'été 1942, pas plus, hein, quand on voit l'impact que ça a eu dans une France très catholique, imaginez ce qu'aurait été la protestation, qui était la menace, de tous les évêques et archevêques de France, avec lecture en chair d'une protestation officielle, sur le processus. Le processus était complètement grippé. Et n'oublions pas la dernière phase, à partir de janvier 1944, c'est toujours Pétain, c'est toujours Laval, mais il y a la milice, et il y a Darnan. Et l'une des premières mesures de Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, qui était donc le patron de la milice, le collaborationniste proche des Allemands qui est dans le gouvernement, une de ses premières mesures, c'est de donner aux autorités allemandes la liste de tous les juifs français et étrangers, de donner l'ordre au préfet de donner ces listes aux autorités allemandes. Et effectivement, on va avoir encore une nouvelle vague de déportation au printemps 1944, importante en particulier chez les juifs français.
Marturo ?
J'aurais voulu qu'on revienne au rôle propre de Pétain, puisqu'on l'a élaboré, on l'a évoqué au départ, mais on n'a pas vu la suite. Ce qui est frappant, c'est que si il n'assume pas l'idée que tous ces gens seront morts un jour, ce que Laval ne croit pas au moment où il négocie sur les enfants, justement. Et ce qu'il y a de dramatique avec Laval, qui lui n'était pas antisémite du tout, c'est que quand il a compris que ses enfants et tous seraient exécutés, il n'a pas changé de politique. C'est-à-dire lui qui...
On peut dater le moment où il le comprend.
43.
Et comment il le comprend ?
Ben, il le comprend parce que les ondes arrivaient un petit peu de partout, n'est-ce pas ? Des envoyés de la papauté, les églises...
Les ambassadeurs.
Les ambassadeurs. Il nous revenait de toute l'Europe, de l'Amérique aussi, un certain nombre d'informations. Et lui a été saisi de ce fait. Au départ, son geste était un geste, au fond, de sauvegarde des enfants, essentiellement, pas seulement du souci d'avoir à les garder, mais quand il a compris le vrai drame, ça ne l'a pas fait changer de politique. Voilà sa psychologie et son comportement. Pétain, c'est différent. Son antisémitisme est incarné, si je puis dire, dans sa vision du monde et de sa personne, même s'il a des amis juifs. Et par exemple, quand autour de lui, des amis protestants ou autres, lui parlent des juifs, il dit « Mais pourquoi on parle toujours des juifs ? Il n'y a pas qu'eux qui sont des victimes. » Il y a toujours une rancœur, une haine qui survit à tous les moments. Et le moment maximal, si je puis dire, c'est quand même en 1943-1944, lorsque les Italiens, dans la zone qu'ils occupaient, avant d'être chassés, protègent les Juifs. À Nice, à Grenoble, un peu partout, Pétain proteste qu'on ose protéger les Juifs en zone italienne. C'est un affront à sa souveraineté. Mais c'est aussi sa rancœur que sa politique juive rencontre des opposants. Voilà. Donc il est de bout à bout.
Alors pour terminer sur le rôle personnel de Pétain, il faut juste rappeler que la recherche historique progresse en permanence et qu'il y a peu de temps, on a retrouvé l'exemplaire original de la loi portant statut des Juifs, annoté de la main même de Pétain et montrant bien que Pétain lui-même avait durci certaines dispositions du projet de loi initial. Voilà, ça c'est sur son rôle personnel, ce qui montre bien la complexité de toute cette histoire. Oui.
Ça c'est un document tout à fait essentiel qui a été versé par Serge Klarsfeld il y a 2 ans au mémorial de la Shoah et qui montre, vous avez tout à fait raison, qu'à partir d'un projet qui a été proposé et qui a circulé, on en a 2-3 exemplaires en fait retravaillés par les différents ministres. Là c'est l'exemplaire retravaillé par Pétain et toutes les remarques vont dans le sens d'un durcissement. Bon. On est bien dans une logique qui doit être comprise là, de l'analyse que les nouveaux gouvernants font du monde. Vichy, Pétain en particulier, Darlan, mais Laval aussi, on reviendra sur le cas particulier de Laval, mais les nouveaux gouvernants considèrent que la défaite est un symptôme. C'est le symptôme d'une crise profonde qui travaille la société française depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, on a une sorte de délitement qui est le fait d'un complot. Et ça, on revient sur les thématiques très traditionnelles de l'extrême droite française. Parce que ce complot est le fait de ce que Pétain va appeler les forces de l'anti-France. Le juif, le communiste, l'étranger et le franc-maçon. Et donc, ça ne sert à rien de résister à l'occupant, puisque les causes profondes, ce n'est pas évidemment la supériorité allemande, c'est cette espèce d'effondrement de l'intérieur. On va donc régénérer la société française de l'intérieur en rassemblant les éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, piété, ordre, et en mettant l'écart, en excluant les vrais responsables de la défaite. Donc, le juif, le communiste, l'étranger et le franc-maçon. Et le bloc de mesures prises entre le début de l'été et l'automne 1940, dans l'âge d'or de la Révolution nationale, entre guillemets, en dehors de toute pression allemande, vise justement ces cibles-là. On est dans un corpus idéologique bien cohérent, là.
C'est une dégénérescence à deux pôles. Le pôle qu'il vient de nous dire, mais également les défaites. Napoléon, d'abord, les défaites de la monarchie, qui était quelque chose de divin. Ensuite, Napoléon. Ensuite, 70. Ensuite, 40. C'est-à-dire que la dégénérescence de la France est complète. Il y a eu une victoire en 14-18, mais elle a été effacée parce que les forces en question étaient justement groupées à ce moment-là.
D'accord. Alors, pour en terminer avec ce chapitre particulier, ce thème particulier de l'histoire de Vichy, c'est-à-dire l'antisémitisme, on voit bien l'argument qui est sous-jacent à cet argument de dire Pétain a sauvé les Juifs français, c'est le thème du Pétain protecteur, c'est-à-dire du Pétain bouclier des Français par opposition à un De Gaulle qui serait le glaive. Alors, je voudrais juste qu'on réécoute Jean-Christophe Cambadélis,
le
premier secrétaire du PS. On
réécoute. Extraordinaire, ce passage.
Je pense qu'entre Manuel Valls et le président de la République, c'est le glaive et le bouclier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que François Hollande est un bouclier pour les Français. Et Manuel Valls est un glaive dans les réformes. C'est-à-dire qu'il coupe, qu'il avance. Que les Français veulent tout à la fois être protégés et en même temps, ils veulent que ça bouge. C'est un sentiment contradictoire.
Alors, le glaive et le bouclier, c'est une théorie historique très précise qui consiste à dire il y avait, sinon un accord explicite, au moins une complémentarité de fait entre Pétain, protecteur, et De Gaulle, résistant, le glaive. Alors, ça vient d'où ?
Avant de dire d'où ça vient, on va quand même revenir sur Cambadélis. Ouais. Je trouve ça extraordinaire parce que, bien entendu, il ne pensait pas du tout à ça quand il l'a dit. Je travaille un petit peu sur les questions de mémoire, de conscient et d'inconscient. Il est évident que là, on a la mémoire sémantique qui marche à fond. Il y a eu un déclic sur bouclier, glaive. Il n'a aucun intérêt à comparer l'un à Pétain et l'autre à De Gaulle. Parce que bon,
Mais pensez qu'il ne connaît pas l'histoire.
C'est que bien sûr, il l'a apprise, mais que c'est quelque part là-bas. Mais peu importe, en l'occurrence, je ne vais pas m'intéresser à découper le cerveau du premier secrétaire du Parti Socialiste. Mais simplement pour dire qu'on voit bien que ça a complètement habité, mais il est ailleurs là. Mais moi, ce qui m'intéresse effectivement dans la question que vous posez, au-delà de ce cas très particulier, en l'occurrence pour le défendre, mais ça m'amuse plutôt, j'étais stupéfait, je ne l'avais pas entendu. Donc, qu'il n'ait pas percuté, et puis qu'il n'y a aucun journaliste d'ailleurs qui l'ait interrogé en lui disant « mais aussi, ça ne vous rappelle rien, jeune
aussi,
homme ?»
Aussi.
Bon, donc, alors effectivement, vous dites très bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est le début du mythe Pétain. Et qui va construire le mythe Pétain ? C'est Pétain. On est en août 1944. Pétain, c'est la fin. Finalement, il va être exfiltré par les Allemands. Il n'aura pas le temps de prononcer un discours qui va être rédigé. Alors, on a un petit désaccord avec Marc sur l'origine. Moi, je l'avais trouvé dans un texte de Cressel. Il fait venir, je crois que tu voyais une autre origine de ce texte. Mais c'est un texte absolument fondamental qui ne sera jamais lu et où il dit « Je veux organiser le transfert de légitimité ».
Vous voulez qu'on vous écoute le lire, ce discours ?
On
va vous écouter le lire dans ce documentaire de 2008,
si on est en stéréo, là.
Dont vous êtes le co-auteur.
Août 1944, quelques jours avant la chute du régime.
Pétain demande à Paul Cressel, ancien secrétaire général à la propagande, de lui écrire un discours testament. Un discours qu'il ne prononcera jamais. Je lis. S'il est vrai que De Gaulle a levé hardiment l'épée de la France, l'histoire n'oubliera pas que j'ai tenu patiemment le bouclier des Français.
Voilà. Il a raison, hein.
Oui, il lit pas mal d'ailleurs.
Non, 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 il lit pas mal. Non, il a raison. Et ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui est, je trouve, absolument passionnant dans cette affaire, c'est qu'il veut essayer de retrouver sa légitimité en faisant une forme de transmission, j'entends Pétain bien sûr, en faisant une forme de transmission de pouvoir à celui qui est naturellement son successeur, c'est-à-dire le général de Gaulle.
Alors qu'il faut rappeler qu'il l'a condamné à mort par contumace en 40 quand de Gaulle est parti à Londres.
Alors il est déchu de sa nationalité, il est condamné à mort, enfin bon, je veux dire, bon, il fait la totale.
Et que pendant toute l'occupation, le gaulliste est l'ennemi, le gaulliste est pourchassé.
Et à l'inverse, l'obsession de De Gaulle, parce que c'est la clé de la reconnaissance de sa légitimité à lui, a été la négation de la légalité et de la légitimité du régime de Vichy. Ça veut dire qu'on parle évidemment de son discours, de son appel du 18 juin, mais tout de suite après, son premier discours après l'appel à la résistance, c'est « Au nom du peuple français, moi, général de Gaulle. » Juin 40, « Au nom du peuple français. » Il est loin.
À propos du glaive et du bouclier.
Je voulais faire un petit flashback. Parce qu'on a parlé de Pétain, mais on n'a pas dit la fin. C'est-à-dire qu'à la veille de son procès, il a quand même rédigé un texte, manuscrit, dans lequel il dit que c'est lui qui a sauvé les Juifs. Il ne suffit pas que ce soit l'histoire depuis qui reconstitue ce qui n'est pas vrai, mais il faut rappeler qu'il l'a écrit nettement et clairement. Et avec quel argumentaire ? Bien, l'argumentaire que s'il n'y avait pas eu la zone libre, eh bien les Juifs français, entre autres, n'auraient pas pu être sauvés. Et cet argumentaire porte. Seulement, il se trouve que cet argumentaire est faux. Parce que ce n'est pas Pétain qui a demandé à ce qu'il y ait une zone libre. C'est Hitler qui souhaitait qu'il y en ait une. Il souhaitait qu'il y en ait une parce que, pour lui, la guerre allait durer, alors qu'en France, on était persuadé que la guerre allait se terminer. L'Angleterre aura le cou tordu comme un poulet, disait-on en juin 40, n'est-ce pas ? Alors que le maréchal Keitel, lorsqu'il signe l'armistice avec les Français, leur fait comprendre, au général Hunsinger et autres, que la guerre, elle va durer longtemps. Mais ça, les Français ne l'entendent pas parce qu'ils sont écrasés, et par la culpabilité, et par la défaite, et par l'écrasement et tout. Mais il n'en reste pas moins que c'est Hitler qui voulait qu'il y ait une zone libre. Et c'est l'existence de la zone libre qui est à l'origine du sauvetage des Juifs.
Et soyons clairs, qui voulait qu'il y ait une zone libre, parce qu'on peut se demander pourquoi Hitler, par pure magnanimité, aurait voulu accorder une zone libre. C'est pas du tout ça.
Il voulait une zone libre parce que, jugeant que la guerre allait durer, ce que les Français ne voulaient pas entendre, il lui fallait une zone d'arrière. Et c'est pour ça qu'il va en Espagne aussi. Une zone d'arrière contre les Anglais, et éventuellement plus tard contre les Russes.
Et aussi, j'imagine, parce que ça consomme moins de soldats d'occuper une demi-France que d'occuper la France entière.
Oui,
j'imagine.
Mais enfin ça, c'est pas le vrai argument. Non, oui. C'est pas le bon argument. Ah bon ? L'argument, c'est que la guerre devait durer, alors que pour la France, elle était finie. Et à partir du moment où elle était finie pour nous, on était content d'avoir une zone libre. Mais Hitler était content aussi. Il était content aussi parce que, justement, ça lui permettait d'être tranquille à l'arrière. Mais ça, c'est pour dire que ce n'est pas grâce à Pétain.
Attendez, en quoi il était plus tranquille dans une zone libre que dans la zone occupée ? Je ne comprends pas. Là.
Ben, il avait moins à garder que toute la France.
Ah ben voilà, c'est ça.
Oui, la France était tranquille. Oui, mais ce n'est pas là le problème.
Oui.
Le problème, c'est que, pour autant que la France juge que c'est foutu la guerre, qu'il n'y en aura plus, et que les Allemands jugent au contraire que ça va durer, l'existence de la zone libre, qui permet ensuite qu'il y ait beaucoup de Juifs sauvés, Ça tient pas à Pétain.
On a bien compris.
Ça tient à une décision de Hitler.
On a bien compris.
Oui, mais c'est pas ce que dit Pétain quand il écrit sa lettre.
Ah oui, non, mais on est bien d'accord.
Il fait croire. il fait croire que c'est lui qui est à l'origine d'une zone libre.
Bien sûr, Denis Péchancier.
Bien sûr. Et cette question de la guerre est centrale. On l'oublie souvent. Si Pétain arrive à capter le soutien de la grande majorité des Français, c'est parce qu'il dit aux Français. Je vais vous retirer de la guerre. Vous voyez, tout autour, c'est la mort. Nous, on a eu l'effondrement. Après cet effondrement, je vous épargne la guerre. Donc ça, c'est
c'est pour ça que Marc Ferraud a tout à fait raison de parler de ce hiatus. Une petite précision simplement, effectivement, à partir du moment où Hitler avait deux objectifs pour la France, c'est le pillage des ressources du pays qui est occupé, le plus riche de tous les pays occupés, et assurer la sécurité des troupes d'occupation. Ça, c'était ses deux objectifs majeurs. On rajoutera au début la guerre d'Angleterre, donc être sûr des bases arrières pour pouvoir lancer l'offensive contre l'Angleterre, ce qu'il pensait le débarquement prochain vers l'Angleterre, c'est la bataille décisive de l'été 1940 et de l'automne 1940. Ça, c'est des objectifs. Se rajoutera à partir de l'été 42 un nouvel objectif qui est la mise en œuvre de la solution finale. Mais au début, on a donc ces objectifs-là, et c'est idéal d'avoir une forme de paravent entre les forces d'occupation et la société française. Parce qu'on oublie souvent que, bien sûr, elle était pro-maréchaliste, cette société française, mais dans sa grande majorité, dès le début, elle a été contre l'occupation, contre la collaboration, pour la victoire, y compris de l'Angleterre après Mercel Kébir. Donc, on n'est pas du tout dans une configuration d'une Mercel Kébir, c'est donc...
La flotte anglaise coulant la flotte française, évidemment, événement qui a été amplement exploité par Vichy dans sa...
Bien sûr, ça c'était début juillet 1940. Et donc, il est essentiel d'avoir une administration française intermédiaire pour assurer l'emprise. Et alors... Et bien, Pétain offre ses services, en quelque sorte. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en zone nord, certes zone occupée, mais il y avait des préfets dans tous les départements. L'administration française était là dans tous les départements. Donc, attention, les Allemands n'étaient pas tout seuls en zone nord.
Rectificatif, oui. S'il te plaît. Rectificatif, oui. Pétain offre ses services, mais aux Français, c'est présenté comme une sauvegarde de la souveraineté. On reste souverain, c'est nos flics qui arrêteront les communistes, les juifs et tout. Donc on est toujours chez nous. Et c'est ça la turpitude, en quelque sorte, du problème.
Eh bien ça, c'est le cœur du deuxième pilier, en quelque sorte, du régime de Vichy. On a vu la révolution nationale, logique d'exclusion, rassemblement autour des valeurs traditionnelles, et puis le choix de la collaboration. Et ce choix de la collaboration est complètement pris en charge et dans... l'armistice, dès juin 1940. C'est pas simplement la poignée de main de Montoire du 24 octobre.
– Entre Hitler et Pétain.
– Entre Hitler et Pétain. On est dans la collaboration dès la signature de l'armistice.
– Absolument. Alors,
on y est même avant.
Pour partir du débat.
On y est même avant.
Attendez, pour revenir un peu au débat contemporain, parce que finalement, c'est les informations historiques que les gens reçoivent aujourd'hui. Ils les reçoivent par la polémique politique d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même un bon point de départ pour remettre un peu comme les pendules à l'heure. Les conditions dans lesquelles Pétain, en 40, est investi des pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale française. Je voudrais qu'on écoute ce qu'en dit un élu Front national de Marseille, Stéphane Ravier.
Aujourd'hui, un homme qui fait entre autres l'éloge du régime de Vichy peut-il continuer à parler au nom du Front national ?
Je ne sais pas s'il fait l'éloge du régime de Vichy. Vous savez, le régime de Vichy, Maréchal Pétain, il n'a pas été installé par Jean-Marie Le Pen. Il a été installé par la SFIO. Bon, et Pierre Laval, que je sache, il était plutôt socialiste.
Alors, on ne va pas refaire l'histoire. C'était la SFIO, c'est tous les parlementaires, si les socialistes, les radicaux, la majorité
des peuples. Si l'on souhaite évoquer l'histoire, il faut évoquer les faits.
Alors, Pétain installé par la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on peut dire, Denis Péchanski, de cette journée du 10 juillet 1940, dans laquelle l'Assemblée nationale...
On est déprimé, si vous voulez, parce qu'on se dit, alors d'accord, une utilisation de l'histoire pour des raisons politiques...
Non, mais attendez, vous êtes habitué quand même.
Oui, c'est rude,
bon. Alors, surmontez votre dépression et rétablissez...
On va essayer de rétablir un peu la situation. On est donc dans une chambre qui a été... Effectivement, la chambre dite du Front populaire après les élections de 1936, avec quelques évolutions quand même un petit peu importantes, et en particulier le fait que c'était une alliance SFIO, Parti communiste et Parti radical, le Parti communiste ne voulant pas participer
au gouvernement, mais soutenant le gouvernement de Front Populaire, sauf que à partir de 1938, le Parti radical décide de rompre ce pacte, en quelque sorte, et va faire une alliance qui sera privilégiée à droite, avec un Parti communiste qui sera exclu de ce Front Populaire à partir d'avril 1938, et un Parti Socialiste, SFIO, qui sera au fur et à mesure marginalisé. On arrive en 1940. –
Reste que c'est la même chambre.
– Mais non, c'est pas la même chambre.
– C'est les mêmes députés.
– Mais non, c'est pas les mêmes députés. –
Comment ça, c'est pas les mêmes députés ?–
Mais non, parce qu'on est en 1940 et qu'on a déjà tous les 76 députés communistes qui ne sont plus dans la chambre, sauf ceux qui ont rejoint Pétain.
– Ce sont les mêmes députés.
Oui, mais sauf qu'il n'y a plus les députés communistes, il y a une bonne partie des députés sociaux qui ne sont plus là, et donc quand on fait le compte, c'est faux, c'est tout. Ce n'est pas la SFIO, c'est une chambre.
C'est faux pourquoi ?
Mais parce que la majorité de la chambre est une majorité, dorénavant, Parti radical et droite. Mais c'est celle-là qui est majoritaire.
C'est-à-dire, vous voulez dire que soyons parfaitement clairs, vous voulez dire qu'en 40, quand les pleins pouvoirs sont votés, les députés communistes sont absents physiquement.
Mais bien sûr.
Voilà.
Sauf ceux qui soutiennent maintenant le régime et ont rompu avec le PC. Ils ont été exclus après le pacte germano-soviétique. Le Parti communiste a été dissous.
Depuis le pacte, ils sont plus là. Ce qui fait combien de députés en moins ?
76.
Ce qui fait 76 députés en moins.
Pas mal.
Alors maintenant, Ravier parle des députés SFIO. Est-ce qu'on peut parler
Il parle pas. Non, il dit si, pas si. Les députés. Non, c'est alors, faux. Il dit que ça a été une création, enfin que les pleins pouvoirs ont été donnés par la SFIO. Alors, la SFIO est minoritaire dans la nouvelle chambre, et en particulier comme il y a un certain nombre de députés SFIO socialistes ne vont pas voter les pleins pouvoirs, soit ne seront pas là, soit vont s'abstenir, soit vont voter contre. Bon,
Donnons les chiffres exacts. Alors, 36 SFIO contre les pleins pouvoirs, 90 SFIO pour les pleins pouvoirs.
Bon, d'accord. Donc, si on prend la suite, on est bien d'accord que c'est grâce aux 90 députés de la SFIO que Pétain a les pleins pouvoirs. Vous voyez bien que c'est absurde.
Non, on est d'accord.
Donc, mais y a quand même une réalité.
On est là pour regarder les réalités, même dérangeantes.
Ça ne dérange absolument pas. 36
contre, 90 pour. Il y a quand même.
Voilà. Mais bien entendu. Alors, mais ça,
comment on peut expliquer
ça? Mais c'est la crise. C'est la crise du socialisme français de la fin des années 30, qui est travaillée par tout un courant pacifiste autour de Paul Fort en particulier, et qui va être
le poète.
Le secrétaire général de la SFIO de l'époque, et vous avez une sorte de travail de l'intérieur par ce courant qui est un courant pacifiste très important qu'on ne peut pas comprendre si on ne fait pas référence à la Première Guerre mondiale. On est 20 ans après la Première Guerre mondiale, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, et tout ce courant de gauche va être travaillé par, évidemment, cette obsession de ne pas recommencer.
C'est ça qui explique le vote de 90 parlementaires SFIO pour les pleins pouvoirs à Pétain.
En partie, oui, bien entendu.
C'est le pacifisme.
Ah, moi, je crois que c'est fondamental, et puis l'anticommunisme. Et aussi par anticommunisme, et puis face à la montée des périls. Et puis il y a une chose.
Alors, attention
à ne pas reconstruire l'histoire. C'est-à-dire que un certain nombre, pas tous, un certain nombre de députés, et c'est fait ou autre, ont voté les pleins pouvoirs, mais pas pour la destruction de la République.
Oui, mais enfin, d'accord.
Et de fait, on va aboutir à ça.
C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la suite, c'est ce que vous voulez dire.
C'est un petit peu le problème, c'est qu'en général, on ne connaît pas la suite, vous voyez. Tandis qu'aujourd'hui, c'est assez facile.
C'est plus facile. Voilà. Alors, juste une chose, vous expliquez ça par le pacifisme. Blum lui-même, qui a témoigné d'abord...
Il ne veut pas les pleins pouvoirs.
Attendez, je peux finir ma phrase? Blum lui-même, qui a témoigné au procès Pétain et qui a ensuite témoigné sur cette fameuse journée du 10 juillet à laquelle il participait, donne une autre explication. Il parle de la trouille. Il dit « Mes camarades de la SFIO ont eu la trouille ». Et il raconte cette journée du 10 juillet 40. Il dit « Moi, quand je suis arrivé à cette session extraordinaire du Parlement, mes camarades de la SFIO se sont précipités vers moi, très chaleureux, etc. Et au fur et à mesure que se déroulait la séance, je les ai vus tous s'éloigner et je suis devenu une sorte de pestiféré dans mon propre groupe ». Et ce qui met en cause lui, alors je ne sais pas ce qu'on peut en dire, ce qui met en cause lui, c'est les dépressions physiques, des intimidations de Laval auprès des parlementaires pendant toute cette séance, la présence de miliciens. La milice d'hommes de main pro-pétain dans les rues de Vichy pratiquant des intimidations physiques sur les parlementaires. Est-ce que tout ça a compté ou pas, Marc Ayrault?
Ça ne se présentait pas comme ça. Les Français revenaient de l'Exode. L'Exode a eu lieu, on va appeler, en juin, mai-juin. En juillet, les gens étaient à peine de retour. L'idée que la guerre puisse reprendre ou de ne pas, en quelque sorte, obtempérer à une nouvelle constitution par l'ex-sauveur, soi-disant, n'est-ce pas ? Les gens étaient totalement aplatis. Et à l'Assemblée en question, il faut rappeler que tous les parlementaires qu'on a vus à Bordeaux s'étaient fait huer par tout le monde, dans les rues, de gauche,
les
de droite.
– Les mêmes qui ensuite votent les pleins pouvoirs. Voilà. –
Ben bien sûr, non, le peuple…
Non, mais c'était, les mêmes s'étaient fait huer, ouais.
Ils se sont fait huer, donc ils votent le plein pouvoir. Parce que Pétain, c'est un homme neuf, etc., etc. Enfin, une légende reconstruite, mais enfin, c'est ça. Donc, c'est l'écrasement, si je puis dire, de la population. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne dit jamais assez, il me semble, c'est que ces pleins pouvoirs qui ont été votés, mettons, par l'Assemblée en général, disons, moins les communistes, bien sûr, puisqu'ils n'étaient pas, les socialistes qui ont voté pour les juifs, députés, il y en avait 5-6, ils ont voté le plein pouvoir, comme tout le monde. Bon, c'était un mouvement, je dirais pas de panique, ni seulement de peur, ni de trouille, c'était une voie sans issue de voter pour Pétain. C'était ça, en gros. On ne s'attendait pas à ce que ça impliquerait dès le lendemain, en quelque sorte. Mais il y a autre chose
qu'on... C'est-à-dire que ce que vous mettez en cause, c'est l'aveuglement, là.
Je veux dire, alors, bien sûr.
Non, mais quand on cherche à faire l'éventail des raisons de ce vote des pleins pouvoirs,
bien
il y a
sûr,
effectivement...
Les facteurs plus, ils sont.
Alors, le pacifisme, disait Péchanski, sans doute la trouille,
les gens ne savent plus où on en est.
Et l'aveuglement.
Mais il y a autre chose qu'on ne dit jamais, et pas suffisamment du moins, c'est qu'à cette date-là, à part les gens qui étaient à Vichy, les gens du reste, à Paris ou ailleurs, ils s'en foutent de tout ça. Ils ne savent même pas qu'il y a eu un truc qui se fait à Vichy. Ce à quoi ils pensent, ce à quoi ils manifestent, c'est Mercel Kébir. C'était la même semaine. Je me rappelle, au lycée, il y a eu des manifs. Les uns justifiant Mercel Kébir, les autres, au contraire, critiquant. C'était ça, l'actualité. C'était pas ce qui se passait là-bas à Vichy, on ne sait pas qui, quoi. Maréchal Pétain, bon, très bien, il est gentil, on verra. Donc, depuis, l'histoire a surpolitisé, à juste titre d'ailleurs, l'effectivité de ce qui s'est passé à Vichy. Mais à l'époque, c'était un non-événement, ce qui se passait à Vichy. Tout ce qu'on raconte sur Laval et compagnie, personne n'en a jamais eu connaissance.
Non, non, enfin, on est aujourd'hui en 2015, on essaye de comprendre
oui,
qui c'est. Voilà.
Mais pour reconstituer l'esprit de l'époque, il faut bien dire que ça n'a pas compté.
Et là, on met le doigt sur ces deux paramètres que vous évoquiez, Daniel, juste avant. Le premier, c'est Laval. C'est un homme du parlementarisme, alors même qu'il va détruire la République parlementaire. Et Pierre Laval va être un extraordinaire magouilleur dans ces journées décisives de l'effondrement.
– Il magouille ou il intimide ?–
Ah tout, oui, oui, non, tous les outils sont utilisés. Non, il sait très bien faire. Et il promet des places, enfin, il y a toute une série. Et puis en même temps, c'est le parlementaire, donc on ne peut pas imaginer qu'un parlementaire, avec tout son passé de président du Conseil, puisse remettre en cause les fondements même de ce régime. Et puis mesurer l'importance de cet effondrement qu'a constitué l'Exode. C'est très étonnant, vous voyez. Travaillé un petit peu sur les questions de mémoire, je me suis interrogé sur ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Comment un événement qui a été vécu par beaucoup de monde, voire énormément de monde,
l'exode,
n'est pas rentré dans la mémoire collective. Parce que ça n'est pas un élément structurant de la mémoire collective aujourd'hui.
Aujourd'hui, ces images-là, tout le monde les a en tête.
On les a en tête, sauf que ce qui est central dans la mémoire collective, c'est soit la figure du héros résistant, soit la figure de la victime juive. Mais la question même de cet effondrement au-delà de cette image, que, évidemment, on a en tête. Ça n'est pas un élément structurant de la mémoire collective. Pourquoi ? Parce qu'on n'en fait rien. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur, avec la honte, avec la fuite, avec le vol ? Parce qu'il y avait évidemment aussi des scènes de vol. Or, il y a 8 à 10 millions de personnes qui sont sur les routes. Si on rajoute les personnes qui ont accueilli ces 8 millions à 8-10 millions de personnes, c'est une France de 40 millions, c'est toute la France qui est concernée. Et
vous auriez juste à dire qu'il y a une occultation de l'exode.
Ce n'est pas une occultation, je déteste le mot occultation. On le dit toujours a posteriori, quand justement on commence à en parler, on dit « Ah oui, avant c'était occulté ». Non, ce n'est pas occulté. C'est simplement que, voilà, c'est un événement qu'on a tous connu, quand on était de l'époque, et puis, eh bien après… Est-ce que c'est utile pour participer de la construction identitaire de la nouvelle nation ? Non.
Et puis il y avait 2 millions de prisonniers, en plus de ces millions dans les rues. En plus
sur
les routes et dans les rues, partout. N'est-ce pas ? Donc il y avait un effondrement tel que l'analyse que nous faisons tous depuis 40 ans du régime de Vichy, au fond, quand ça a eu lieu, au fond, personne ne l'a su. J'exagère.
Personne n'a su quoi ?
Que ça a eu lieu.
Quoi ?
Un changement de régime.
Ah,
hein, le fait
l'aspect
que,
politique, vous voulez dire l'aspect politique est passé inaperçu par rapport à...
L'implication de tout ce qui... On l'a pas su. C'est pas l'histoire qu'on a dit qu'il y a un bourgmestre qui s'appelle Pétain, ça c'est une blague qu'on a faite à l'époque, mais c'est pas vrai. La zone libre, on pensait que c'était une région de France qui était un peu à l'écart, parce que les Allemands la laissaient de côté... Mais la France, la vraie, c'est celle qui était occupée. C'était Paris. C'était les Allemands.
Puisqu'on voit bien que là, c'est pas seulement l'historien qui parle, mais c'est le témoin de l'époque qui parle.
Il y avait les Allemands qui comptaient.
Vous étiez où, vous-même, à l'époque ?
Ben moi, j'étais à Paris. Oui.
Vous étiez à Paris.
J'étais au lycée Carnot, à l'époque. J'étais en première ou en philo, je ne sais plus. Oui. Donc, à cette époque-là, je me rappelle très bien que Vichy, c'était quelque chose, on ne sait pas... D'abord, on n'imaginait pas tout ce que ça impliquerait, mais même ceux qui ont fait Vichy ne le pensaient pas. Or, du jour au lendemain, on l'a vu. Et c'est ça aussi qu'il faudrait faire comprendre. C'est que ce régime qui est devenu de plus en plus autoritaire n'était pas perçu comme tel, parce que quand on arrivait en zone libre, et moi j'ai été 3-4 fois, j'ai fait 3-4 allers-retours, c'était la liberté. C'était la liberté. On chantait ceci, cela, pas maréchal, nous voilà, non. Ça, c'est dans la légende. Mais les gens étaient libres. Et après, ben, la zone libre deviendra une zone occupée, et elle sera aussi occupée, bien qu'elle ne soit pas censée l'être, hein, à partir de 1942. Alors là, ce sera pire.
Maréchal Nouvoilà, c'était de la légende ? Non, c'était pas
non,
de la
légende. Non, c'est pas la légende, mais c'était des gosses qui chantaient ça.
Oui,
c'était
bah oui.
L'actualité. Oui. Oui, mais personne n'a chanté. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter ça.
Ah bon ?
Ben non.
Péchanski n'est pas tout à fait d'accord, là.
Des gosses.
Enfin, en même temps, vous avez face à vous un témoin de l'époque. Hein.
Non, mais des gosses dans les écoles.
Je vais sortir vivant de cette affaire, donc je vais essayer de mesurer ma réponse.
Les gosses dans les écoles chantaient ça.
Oui.
Mais les petits.
Bah oui,
c'est
pas rien, les gosses dans les écoles.
Non, mais ils envoyaient des milliers de lettres. Ils envoyaient des milliers de lettres, ces gosses.
Je crois qu'il y a. Oui, enfin, je pense qu'il faut quand même mesurer l'impact de cette propagande officielle, hein, de cette propagande de Vichy, parce que c'est passé évidemment par les enfants, évidemment un vecteur très important, mais aussi l'image de l'ancien combattant, la figure de la mère, la figure du paysan, le retour à la terre, les figurines du maréchal Pétain partout, une sorte de reproduction qui renvoyait au culte du chef, les voyages du maréchal qui étaient vraiment des vecteurs de rassemblement autour de la figure de Pétain. Donc
ce que vous dit le témoin qui est à côté de vous, là, c'est que tout ça, non, finalement, ne mordait pas en
juillet, je dis, en juillet, août, on parle de la crise de la création du gouvernement. Juillet-août.
D'accord.
3-4 mois.
On est dans la construction, vous savez, il y a des images successives. La première image, effectivement, au sortir de l'effondrement de mai-juin 40, c'est vite, on se retire de la guerre et on a un homme qui va nous retirer de la guerre. En plus, c'est le maréchal Pétain, c'est-à-dire c'est le vainqueur de Verdun, c'est l'homme de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça ne peut pas être un traître. Donc là, on est une sorte de patriotisme minimal. On va pouvoir se retirer sur nos bases les premiers temps. Et très vite après...
Denis, attends une seconde. On ne peut pas dire ça ne peut pas être un traître. On peut le dire maintenant. Mais à l'époque, ce n'était pas un concept imaginable que cet homme-là...
Vous dites la même chose.
Non, parce que ce n'était pas pensable.
Bien sûr, mais vous êtes d'accord.
On est entièrement d'accord. Oui. Et après, partir du moment... Si, je t'assure. non, mais dans le sens où, effectivement, c'était impensable qu'il puisse être un traître.
Voilà.
Impensable.
Donc on ne peut pas le
faire. Vu sa figure. Et donc, dans la suite, très vite, à partir du moment où se met en place ce régime, avec ses fondements autour de la Révolution nationale, là, la question se pose de... est-ce que ça prend ou est-ce que ça ne prend pas ? En 40, globalement, ça prend. En tout cas, la dimension révolution nationale, le culte du chef, la responsabilité de la République parlementaire, la nécessité de balayer un peu tout ça et puis de se reconstruire, ça prend. Ça prend, mais ce qui ne prend pas, c'est la collaboration. Et bientôt, ce qui ne va pas prendre, à partir de 1941, comme on voit que... il y a une radicalisation, il y a ce que Pétain, le 12 août 41, va appeler le vent mauvais qui se lève c'est son discours qui marque une nouvelle radicalisation du régime. Il parle de ce vent mauvais qui se lève dans la société, dans la population. Oui, parce que la situation économique est dramatique, parce qu'il y a les ponctions allemandes, parce que fondamentalement Vichy ne change pas la situation. Eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'on trouve comme solution ? On va dire, c'est la faute du gouvernement. Bon, Pétain, c'est autre chose, il est trompé par son gouvernement ou il est trop fait par rapport à son gouvernement.
Par rapport à tous ces aspects que vous énumérez, il y a un aspect qui est moins documenté quand même. Il y a des aspects de Vichy qui, j'ai l'impression, sont très très bien connus aujourd'hui, il y en a d'autres qui le sont moins. Alors, ce qui est par exemple très très bien connu, c'est la politique, on va dire, familiale de Vichy, donc qui est une politique ultra-nataliste, il faut le dire. Donc on encourage les... Là, on voit quelques affiches de propagande. Voilà, ça, c'est une affiche de l'époque. Un ménage sans enfants, c'est... déjà, ça n'a pas l'air très réjouissant. C'est un couple à la dérive. Ce qui est, dans une politique ultra-nataliste, faites des enfants. Le bénéfice des avantages fiscaux du mariage est retiré au bout de 2 ans au couple sans enfants. Donc ça, c'est l'avortement est très fortement réprimé. Donc ça, c'est des aspects qui sont extrêmement bien connus. Il y a d'autres aspects qui sont moins connus. C'est la politique sociale de Vichy, qui, ai-je découvert en préparant cette émission, je dois l'avouer, est quand même une politique, qu'on pourrait qualifier presque de gauche dans certains domaines. Par exemple, c'est Vichy qui invente la retraite par répartition. La retraite était auparavant par capitalisation, ce qui fait que de très nombreux vieux travailleurs ne touchaient rien ou pas grand-chose. Vichy invente la retraite par répartition. Vrai ou pas vrai ?
Oui, bien sûr.
Et c'est un processus, mais si vous voulez, ça s'inscrit dans un processus long. C'est quelque chose qui commence depuis les années 30. Mmh. Et là, il y a une continuité. Et il y a une continuité par le régime de Vichy, parce que Vichy va développer une politique dite corporatiste.
Mais c'est autre chose, ça.
Le soutien à la corporation du travail et à la politique sociale, je suis d'accord avec vous.
Non, la corporation, on pourrait dire, c'est un concept de droite, enfin ça se discute, mais la retraite par répartition, on est là devant
un concept. Bien sûr, mais c'est la retraite pour les vieux, voilà. Ça a été le grand. Oui, tout à fait. Ça a été le grand dada du régime de Vichy, qui a voulu s'appuyer.
Le minimum vieillesse.
Bien sûr, mais il a voulu s'appuyer sur ces catégories sociales pour asseoir son pouvoir, mais c'était aussi un choix idéologique. On est donc, je crois qu'il faut faire attention.
Mais vous comprenez bien que c'est troublant.
Je comprends votre trouble et tout d'un coup votre pétainisme.
Les allocations familiales pour les chômeurs.
Mais il faut bien.
L'obligation de la médecine du travail pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Bien.
Vichy.
Oui, bien entendu.
Mais parce que l'époque de Vichy, les dirigeants de Vichy ne percevaient pas le gouvernement des hommes comme on le voyait avant et comme on le voit depuis.
C'est-à-dire ?
Nous le voyons avec des partis qui ont des idéologies, qui se disputent et qui alternent ou pas, etc. À l'époque de Vichy, c'était plutôt de l'histoire de la politique au ras du sol. C'était d'abord les prisonniers.
Oui.
C'était ensuite les paysans. C'est ensuite les instituteurs, pas les professeurs.
Hein, ah oui, etc. Donc, c'était plutôt les instituteurs que les professeurs.
Oui, mais parce qu'ils ne les avaient pas, hein, ils voulaient les surveiller.
Sur les instituteurs, ça va. Ah,
ouais. Donc, si vous voulez, les mesures prises qui étaient de la réalité politique, comme vous le faites justement remarquer, ce n'étaient pas des choses qui étaient tellement prises en compte, alors que c'était ce que le pouvoir politique doit faire en toute occurrence. Mais il ne l'avait pas fait, n'est-ce pas, les promesses. Celle des, même celle des autres. Hein, je vais tenir les promesses, même celle des autres. Oui. Mais c'est ça. Le régime, il partait de là.
Ce que je voudrais quand même comprendre, c'est l'articulation entre le discours, évidemment, très, très anticommuniste des hommes de Vichy et tout de même cette politique qui est une politique sociale.
Mais parce que vous avez une vision d'association de la droite, d'extrême droite traditionnelle, avec une politique, comme souvent aujourd'hui, qui est une politique libérale. On n'est pas dans une logique libérale. La logique de l'extrême droite de l'époque est une logique, logique étatiste de soutien et si possible...
Pas seulement étatiste, là, social.
Et de soutien social, bien sûr, pour partie, parce qu'on ne peut pas dire que c'était non plus le paradis pour les couches populaires pendant le régime de Vichy, mais on voit bien que cette logique-là n'est pas la même. Et je parle de Pétain et l'extrême droite traditionnelle, plutôt que celle de Laval, qui lui s'inscrivait dans une autre logique, une autre politique. Mais celle de Pétain, très, très logiquement, il s'appuyait d'ailleurs sur des ministres qui étaient dans cette logique-là,
c'est-à-dire
qui était une logique d'inscription du social dans le champ politique, du régime.
Alors moi je dirais plutôt dans la réalité du vécu des gens. Il prenait des mesures qui étaient vivantes pour les gens de l'époque.
Avec un chef au-dessus qui essaye de...
C'est ça la différence avec ce qu'il y avait avant ou ce qu'il y aura un peu après. Mais je voulais revenir à une petite formule qui a été dite tout à l'heure, que la propagande, finalement, elle a fonctionné. Hein, c'est ça qu'on a dit plus ou moins.
Au début,
voilà. C'est tout à fait d'accord. Mais le régime aussi a fonctionné. Il avançait comme ça. Mais la propagande...
Mais en même temps, est-ce que toutes les mesures que je viens d'énumérer, là, je suis désolé, n'ont pas aussi contribué à la popularité du régime ? Au-delà de tout ce qu'on dit sur la popularité personnelle de Pétain...
C'était pas vécu comme la politique du régime, c'était vécu comme des choses normales à faire. non mais je dis comment c'était vécu, n'est-ce pas ? Le régime...
On instaure le minimum vieillesse pour les vieux. Vous me direz, à Vichy, il n'y a pas d'élection, donc on ne pouvait pas savoir si ça se traduit dans les urnes ou pas. Mais...
Ah non, il y a des éléments, c'est qu'on a des indicateurs de l'opinion au travers des rapports des renseignements généraux, des rapports de préfets, des lettres qui sont gardées par la censure, ouvertes par la censure. Il y en a en 41, 300 000 par semaine en zone sud, 1 million par semaine à partir de à la fin 1943, début 1944. Donc nous, on regarde, on applique, et on voit ce qui agite les... Ça, ce sont des mesures qui, évidemment, sont acceptées, sont intégrées, mais c'est sont évidemment approuvées, mais c'est pas structurant pour expliquer le soutien. On sent bien que ce qu'il y a derrière, c'est l'image de Pétain.
C'est collaboration ou double jeu. Voilà. Alors ça...
Ah oui, sur la collaboration double jeu. Là, c'est un épisode.
Juste avant qu'on revienne à la collaboration, qui est alors un sujet amplement défrigé, je voudrais qu'on écoute. Donc, il y a les affiches qu'on vient de voir, là, et il y a quelques discours de Pétain spécifiquement adressés aux ouvriers, dont un discours le 1er mars 1941 à Saint-Étienne.
Travailleurs français, je vous demande d'entendre mon appel. Ouvriers, n'écoutez plus les démagogues, ils vous ont fait trop de mal. Ils vous ont nourri d'illusions. Ils vous ont nourri d'illusions. Ils vous ont tout promis. Souvenez-vous de leur formule. Le pain, la paix, la liberté. Vous avez eu la misère, la guerre et la défaite. Pendant des années, ils ont injurié et affaibli la patrie, exaspéré les haines, mais ils n'ont rien fait d'efficace pour améliorer la condition des travailleurs. Parce que, vivant de leur révolte, ils avaient intérêt à encourager ces causes. Patron, parmi vous, beaucoup ont une part de responsabilité dans la lutte des classes. Votre égoïsme et votre incompréhension de la condition prolétarienne ont été trop souvent les meilleurs auxiliaires du communisme. Ouvriers, techniciens, patrons, si nous sommes aujourd'hui confondus dans le malheur, c'est que hier, vous avez été assez fous pour vous montrer le point. Cherchez au contraire à vous mieux connaître, vous vous en estimerez davantage. Vous aurez confiance les uns dans les autres, vous résoudrez ensemble le grand problème du travail et de l'ordre social. Renoncez à l'aide, car elle ne crée rien. On ne construit que dans l'amour et dans la joie.
Alors là, je dois dire qu'on a un discours tout à fait extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est un discours opportuniste ou si s'y exprime l'âme profonde du régime de Vichy. Je veux dire, l'entendre engueuler les patrons en leur reprochant d'avoir méconnu la condition prolétarienne, le mot prolétarien. Pétain parle de prolétaire.
Tout y est, mais tout y est. Oui. Tout y est dans ce discours, parce qu'il y a quand même toute une première partie qui est une dénonciation du Front populaire.
Absolument.
Donc, il s'agit de dire, je m'adresse à cette composante de la société française qui est le monde ouvrier, et je leur dis, vous avez été trompés. On vous a promis quelque chose, la gauche vous a promis quelque chose, elle vous a trompé, elle vous a donné le contraire de ce que vous attendiez. Moi, je suis là pour vous donner ce que vous attendiez. Et puis après, par bon équilibre, évidemment, il ne va pas dire « je suis l'homme des patrons ». Je veux dire, c'est quelque chose qui ne passera jamais, en particulier dans un discours aux ouvriers. Il dit je suis l'homme de la reconstruction de la France au-delà des luttes de classe. Voilà. Et donc, on va reconstruire la France tous ensemble, derrière le chef et les corporations qui vont structurer, organiser la société française. –
Alors, ces fameuses corporations, on peut en dire un mot, c'est quoi les corporations, en fait ?–
Alors, c'est d'expliquer qu'au-delà, c'est de revenir d'une certaine façon à l'Ancien Régime et aux corporations d'avant la Révolution française, c'est que finalement, l'individu n'existe pas par lui-même, mais par les groupements, par les corporations dans lesquelles il s'inscrivent. Voilà. Et au fur et à mesure, on a comme ça une structure pyramidale jusqu'au chef suprême, qui est le maréchal Pétain, qui est le garant de l'équilibre de l'ensemble.
Mais qui participe à la corporation ? Il y a qui dans la corporation ?
Prenons
une entreprise, c'est-à-dire la corporation remplace le syndicat, c'est ça ?
De même, la corporation paysanne qui va structurer le monde agricole, on a une structuration, une nouvelle organisation de la société française.
Non mais attendez, je comprends pas. Par exemple, les corporations paysannes, elles sont organisées par quoi ? Par commune, par canton, par les éleveurs d'un côté, les cultivateurs de l'autre ? Comment ça s'organise tout ça ?
Ça s'organise comme aujourd'hui, vous avez des organisations paysannes, oui, qui ne sont pas forcément des syndicats de type traditionnel, et vous avez des organisations de pêcheurs, etc. Et c'est plutôt ça qui est la figure que souhaite Pétain, pour autant qu'il ne veut pas qu'il y ait une division du pays qui soit idéologique à partir de communistes, de socialistes,
etc. – Mais ça, c'est purement une vue de l'esprit ils ont eu le temps de le construire ?–
Ils veulent le construire, ou plus exactement, ils croient que ça existe, ou que c'est faisable, puisque son modèle, dit-il, c'est Salazar ou je ne sais plus qui, n'est-ce pas, des gens comme ça, qui ont
Salazar,
peu construit
la société… – dictateur portugais, oui.
– Au Portugal, n'est-ce pas, qui ont plus ou moins voulu construire une société qui s'appuie sur les professions,
d'accord,
et pas seulement sur les idées. –
Mais ça a été mis en œuvre, Marc Ferraud ?–
Ça a été un peu mis en œuvre sous Pétain, bien sûr, mais ça a été même mis en œuvre au point qu'aujourd'hui, on fait du corporatisme l'horreur des horreurs, alors qu'en fait, elle a certains points de légitimité, parce qu'il est normal que le corps médical se réunisse avec les infirmiers pour examiner les problèmes de la profession.
C'était ça, par exemple, la corporation.
Voilà.
C'était une organisation commune des médecins et des infirmières.
Pas forcément ça en précisant, mais la profession elle-même, de la médecine, voyez-vous. Et puis il y avait les enseignants qui devaient s'organiser aussi, mais pas d'un point de vue revendicatif pur, pas d'un point de vue idéologique.
C'est ce que je vais vous demander. En fait, c'est un truc pour court-circuiter les syndicats.
Et pour il n'y en a plus de syndicats. Voilà. Il n'y a plus de partis, il n'y a plus de syndicats.
Pour les remplacer, alors. Pour les remplacer.
Non.
Non,
non pas pour que quelque chose existe qui vienne de la société.
Non, mais c'est oui et c'est non. Oui. C'est non parce que ce n'est pas la même logique d'organisation. Oui. C'est oui dans le sens où on va s'appuyer sur cette nouvelle structuration de la société française pour pouvoir construire cette France régénérée.
Par exemple, on a créé l'Ordre des médecins, vous voyez. On va créer les syndicats du cinéma. C'est des professions qui n'avaient pas d'organisation. Et l'idée, ce serait que les professions soient le cadre, et, en quelque sorte, d'une vie générale, régénérée, et qui ne serait pas fille des idéologies. Vous pensez que c'est ça l'idée ?
Et surtout faire de l'interclassisme, de nier la lutte de classe, de considérer qu'on doit réorganiser autrement, et plutôt... Comme d'ailleurs le dit Pétain dans son discours de Saint-Étienne, plutôt que d'opposer, comme on le fait traditionnellement, les patrons et les ouvriers, de regrouper tous ceux qui participent de la même entité, qui est l'entité entreprise ou l'entité économie, ou l'entité, enfin peu importe, on va les rassembler parce qu'ils doivent participer ensemble de la reconstruction du pays.
Moi, j'ai juste une question. Alors, il y a des biographies de Pétain, à commencer par la vôtre, Marc Ferraud. Tous les aspects, effectivement, militaires et concernant la collaboration avec l'Allemagne sont relativement bien documentés aujourd'hui. Tout cet aspect dont on parle depuis un quart d'heure, c'est-à-dire à la fois les corporations, le vigie social, etc., est-ce qu'il existe un grand livre ? Est-ce qu'il existe une histoire du...
Le Chrome.
Oui, pardon.
On a un travail de Le Chrome et plusieurs travaux de Le Chrome. Mm. Ça a commencé par les Américains, je pense aux Britanniques, mais celui qui est maintenant la référence sur le sujet, c'est Le Chrome. Il a publié 3-4 ouvrages sur ces questions-là. Effectivement, vous avez raison.
Qui sont des ouvrages grand public ?
Mais non, bien sûr que non, ce n'est pas des ouvrages grand public, vous avez raison.
On a quand même le sentiment, excusez-moi, qu'il y a une gêne à aborder ce Vichy-là.
Non, c'est pas simplement une gêne. Enfin, c'est pas une question de gêne, c'est une question de... Vous vendez, vous, quand vous parlez de la corporation ? Je veux dire,
Vous pensez que c'est ça ?
Oui, il n'y a pas de marché, parce que les gens, ils ne s'intéressent pas, ils s'intéressent pas à ça. Voilà, très bien.
On voit le livre dont vous parlez, je pense.
Voilà. Jean-Pierre Le Chrome, un des ouvrages.
Il y a eu une femme qui a fait un petit livre, j'ai oublié son nom, il y a 3-4 ans, qui examinait tous les problèmes que vous avez soulevés. D'accord. C'est-à-dire les mesures sociales depuis la sécurité, pas la sécurité sociale, mais enfin les mesures de soutien, etc. etc. Et ce livre n'a pas eu beaucoup d'écho. Il y a une sorte de tabou quand on parle de l'œuvre sociale. Bah,
c'est un peu ce que j'essayais de dire, oui.
Oui, mais vous l'avez dit très bien.
Voilà.
Est-ce que c'est parce que, encore une fois, bien sûr qu'on se dit...
Est-ce qu'on ne peut pas arriver à penser à la fois le Vichy qui déporte les Juifs, qui collabore, le Vichy de la poignée de main de Montoir et le Vichy social, je veux dire.
De toute façon, je m'excuse, mais dans le taxi qui m'a amené, qui était conduit par un monsieur du Pakistan, il m'a demandé ce que je venais faire. Et alors je lui dis, je suis ça. Et il m'a tout de suite dit, Pakistanais qu'il est, mais pourquoi en France on est contre Pétain ? Je lui ai demandé rien, moi. Il m'a tout de suite dit ça.
Mais c'est-à-dire que lui, il était pour Pétain ?
Non, mais il voulait savoir. Il ne comprenait pas que tout le monde parle de ça.
J'espère que vous lui avez conseillé de s'abonner à Arrêt sur Image.
Par exemple.
Pour regarder votre émission.
Par exemple.
Oui, alors ce qui m'amène finalement à la dernière question, je veux dire, comment on peut interpréter cette obsession aujourd'hui, alors sans doute de la Deuxième Guerre mondiale en général, mais de Vichy et de Pétain en particulier, d'où il vient ce fantôme ?
Il y a un point qu'on n'a pas encore examiné, mais il faudrait le rappeler en un mot, c'est que si la propagande, au fond, a été relativement molle, même si elle était visuellement présente, et si les seuls points forts de la propagande en 40, 41, 42, pas après, c'était les discours de Pétain. C'était eux qui formataient, en quelque sorte, les problématiques. Mais on n'écoutait pas tellement.
Et la propagande... Vous voulez dire les Français ?
Non, pas tellement. Ils écoutaient, mais enfin, bon, pas tellement.
Ah bon ?
Non, pas tellement, franchement. Ça n'arc-boutait pas la réflexion. La réflexion, encore une fois, c'était les Allemands, la guerre, etc. Bon. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à la fin de la guerre, en 1943-1944, la propagande vichiste, à l'époque de Philippe Henriot, a été d'une puissance extraordinaire. Parce qu'il s'appuyait sur les bombardements,
Les bombardements, soyons clairs, les bombardements, parce que ça aussi, c'est un truc qui n'est pas forcément très su, les bombardements alliés sur la France.
Sur la France. Mmh. Ils s'appuyaient sur la condamnation du terrorisme, c'est-à-dire des résistants, avec une vigueur extraordinaire et un succès certain.
Mais c'est-à-dire que même à la fin de la guerre, l'opinion était contre les résistants, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
L'opinion n'était pas contre les résistants, c'est plus complexe, mais elle n'était pas forcément pour. Elle était contre, dans la mesure où ça pouvait les menacer. Elle était pour plus ou moins de cœur. Mais quand la menace était plus forte que le cœur, elle était contre les résistants.
En quoi ça menaçait le... En quoi
les actions de la résistance ?
Ah, c'est ça, c'est les représailles allemandes.
Absolument, c'était ça dont tout le monde avait peur.
Mais bon. C'est drôle que vous situiez ça à la fin de la guerre, alors qu'habituellement on dit plutôt que la résistance a gagné en force, en influence et en capital de sympathie fur et à mesure de l'occupation.
Oui, mais elle a gagné en péril. Elle a gagné en péril et elle a gagné en fureur. Moi qui étais soldat à l'époque, hein, j'étais chasseur alpin, ma famille m'a dit « Marco, t'es devenu un terroriste ».
Comment ça ?
Ben oui, j'étais un terroriste. J'avais pas acheté des bombes, mais je faisais partie des maquis.
Ah, vous étiez chasseur alpin dans le maquis ?
Oui.
Dans le maquis ?
Oui. Donc, j'étais un terroriste. Et je n'ai pas osé dire à mon retour à Paris que j'avais été résistant. Parce que. Il y avait toute une strate de la société qui avait été entièrement captée par la politique, par Philippe Henriot. Et aux obsèques de Philippe Henriot.
Henriot qui d'ailleurs est descendu par la résistance.
Est descendu par la résistance.
En 1944.
Mais vous avez vu les images ?
Non.
Il n'y a jamais eu autant de peuple à des obsèques que pour Philippe Henriot. Autant que pour Jaurès en 24. Regardez les images.
Non, Péchanski n'est pas tout à fait d'accord.
Non, parce que l'image, on l'a liquidé parce qu'il devenait dangereux. Hein.
Comment ?
Clair. On l'a liquidé parce qu'il devenait dangereux.
Les résistants.
Ah bah oui, mais
les résistants, à partir du moment où il a pris à partir de janvier, à partir de tout début janvier 1944.
Ce que je dis, c'est que sa propagande mordait.
Ouais, vous dites la même chose.
Alors effectivement, il devenait dangereux parce que c'était un très grand polémiste.
Oui.
Et donc ça, d'ailleurs, ça va être le dialogue avec Pierre Dac. Évidemment,
alors Pierre Dac, qui lui
était à Londres et sur le thème Radio Paris est allemand, et va engager le dialogue avec Philippe Henriot à distance, évidemment, de résistance extérieure.
Mais avant, c'était la propagande de Londres qui mordait, n'est-ce pas ?
Mais
et puis celle de Vichy qui peu à peu déclinait.
Ah non, mais alors,
je relativise quand même. Non, je relativise. Pourquoi ? Bon. Philippe Henriot, c'était un responsable milicien, donc son image était loin d'être positive dans la grande majorité de la société française. Mais en 1944, on arrive dans une période où les Français sont en dépression fin 1943, début 1944, parce qu'ils s'imaginaient que le débarquement allait se faire l'année précédente. On leur promet tous les 6 mois un débarquement sur les alors à l'ouest, on ne sait pas exactement où arriveraient ces troupes alliées. Ça fait tout de même depuis novembre 1942 qu'il y a eu le débarquement en Afrique du Nord et on n'a toujours rien et la France est toujours sous l'occupation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un élément de dépression dans l'opinion et on le voit bien dans les évolutions de ce qu'on lit. De ce qu'ils écrivent dans le courrier, de ce qui est dit par les préfets. Et effectivement, ces six premiers mois de 1944 sont des premiers mois de forts bombardements, de radicalisation de la politique de Vichy avec la milice.
On peut rappeler, parce que ce n'est pas forcément évident pour ceux qui nous écoutent, pourquoi les alliés bombardent la France ?
C'est une opération militaire. Mais vous posez une question absolument essentielle. On va revenir, comme ça, par ce biais, aux questions de mémoire. Parce que les bombardements de Normandie, je suis président du conseil scientifique du mémorial de Caen, donc je connais un petit peu la question et je discute régulièrement avec les collègues normands et avec les habitants. Pour eux, mais ça a été ces bombardements de la fin du printemps et de l'été, surtout 1944, mais c'est une catastrophe terrible. Il n'y a jamais eu autant de morts en ces quelques semaines que pendant toute l'occupation allemande. Mais qu'est-ce que vous faites avec des bombes qui vous sont larguées par vos amis qui viennent vous libérer ? On n'en fait rien. Et donc, effectivement, la mémoire collective des Français n'est pas construite autour des bombardements alliés. Ça commence à bouger parce qu'on arrivait peut-être à lui trouver une petite place, parce que ça n'a aucun sens.
C'est ce qui faisait la force, à ce moment-là, de la propagande de Vichy.
Mais je relativise quand même, parce qu'il y a vécu. Il y avait, dans la population française, vous savez, on a toujours dit, oui, il y a les résistants d'un côté, petite minorité, les collabos de l'autre côté, une toute petite minorité. Bon, les résistants, ça va grimper, évidemment, et croître jusqu'à la fin, jusqu'à été 1944. Bon, on est bien d'accord qu'en septembre, il y en a vraiment beaucoup plus qu'en août. Mais bon, globalement, OK, ça croît, mais ça reste une minorité. Mais on oublie que derrière, il y a ce que j'appelais la résilience, c'est-à-dire qu'un mécanisme qui gagne une majorité de la population française qui se sentent du même côté que les résistants. Ils ne sont pas résistants, ils savent très bien qu'ils ne font pas de résistance, mais ils sont du même côté, ils participent de cette souffrance de l'occupation, de la volonté de changement. Et donc, alors ils vont écouter la BBC, mais c'est pas un acte de résistance d'écouter la BBC, mais pourtant ils vont l'écouter.
Ah, si vous êtes pris en train d'écouter la BBC, ça se passe mal pour vous. Hein.
Oui, si on est pris, c'est pas dramatique quand même. Non. Mais même si on est pris, effectivement, si on est pris, mais ça n'est pas, c'est pas une façon d'empêcher la réalisation des objectifs de l'occupant. Bon, et c'est pas du tout de dire ah c'est pas bien, c'est bien, on fait pas une hiérarchie, simplement pour dire voilà, ou bien des protestations sociales à dimension nationale, ou bien vous avez un parachutiste britannique, le parachute, l'avion est bombardé, donc il tombe, parachute se met en torche et il meurt. Bon, et là vous avez nombreux exemples en Bretagne ou en Normandie d'obsèques de ces parachutistes. Tout le village vient à l'obsèque du parachutiste. Ce n'est pas un acte de résistance, mais c'est une façon... Mais c'est une façon de dire non. Voilà, on dit non. Donc on n'est pas résistant, mais on dit non. On n'en veut plus, on en a assez. On proteste dans les queues, on proteste parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Donc et puis, pensez au cinéma. On est dans les salles de cinéma et ça vient très vite. Il y a les actualités. Dès que vous avez un Allemand qui apparaît dans l'actualité, on siffle. Ce qui fait que les Allemands ont imposé de laisser la lumière allumée pendant la diffusion des actualités pour empêcher... Bon, ce n'est pas un acte de résistance, mais c'est une façon de dire non. Et ça, c'est très important pour expliquer pourquoi la résistance a pu, malgré tout, s'appuyer sur un substrat très important et pourquoi aussi, après la guerre, une grande majorité des Français se sont trouvés du même côté que...
Excusez-moi, mais j'ai du mal à articuler ce que vous venez de dire là avec le témoignage de Marc Ferraud sur l'impopularité de la résistance à la fin de la guerre pour cause de représailles.
Je relativise sur l'impopularité, personnellement. Je pense qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des représailles. Ils disaient « prenez pas de risques ». Mais ça ne veut pas dire « vous êtes nos ennemis ». Mais vous allez un peu loin.
Mais quand Ferraud n'ose pas avouer à sa famille ensuite qu'il a été dans le maquis, ça c'est...
Je voudrais ajouter autre chose. En gros, avec ce qu'il a dit, je suis d'accord à 99%.
C'est bien.
Pour ne pas dire 100.
Alors on va parler du 1, là.
Mais il y aurait quelques nuances à faire. Par exemple, quand envoyé en mission du maquis en terre non maquis pour me ravitailler, les paysans ne veulent rien me donner, parce qu'ils ont peur que les Allemands viendront demain, comme ils le font chaque jour, et s'il manque 3-4 poules, ils seront fusillés.
Si les Allemands comptent les poules ?
Ils comptent les poules. Ils comptent les poules. Ça, c'était au Vercors, du Vercors. Mais ces mêmes paysans qui me refusent de donner des œufs ou quoi que ce soit pour le groupe dans lequel je suis, quand nous avons l'ordre de nous disperser, c'est eux qui me cachent et qui me donnent des vêtements. Les mêmes.
Ah ben, j'y comprends rien. Alors là, c'est fini, je suis perdu, là. Alors, ils ne veulent pas vous donner de poules, mais
parce
ils
qu'ils ont peur.
Mais attendez, ils courent beaucoup plus de risques en vous cachant qu'en vous donnant des poules.
Ah oui.
Bah alors.
Mais c'est alors. Ça l'ambiguïté.
Bah, c'est plus qu'une ambiguïté, c'est totalement incohérent.
Non, c'est pas incohérent.
Si. c'est totalement incohérent.
C'est pas incohérent, ça se passait comme ça.
Ouais.
ça se passait comme ça. Ils ne voulaient pas prendre des risques en donnant du ravitaillement à des terroristes. Ils auraient été fusillés.
Ben, s'ils vous cachent, ils sont fusillés aussi.
Oui, mais je suis un Français comme eux. Ils sauvent quelqu'un. C'est tout à fait différent.
L'enjeu n'est pas le même. Hein.
C'est pas le même enjeu.
Mais c'est intéressant, parce que ce témoignage, même si je me méfie toujours des reconstructions mémorielles, mais parce qu'il va nous dire, il va nous dire encore autre chose dans deux ans. Mais c'est pas,
pourquoi,
c'est pas
j'ai
ça.
Pourquoi, j'ai dit le contraire déjà ?
Non, t'as raison.
Je suis pas historien, moi, comme toi, de la période.
Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est, vous voyez, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, comme, parce que... Quand Marc Ferraud vient demander des œufs, il n'y a pas danger de mort. Pour les paysans, oui, mais pour lui, ils ne se disent pas, bon, bah, si je ne lui donne pas d'œufs, il ne va pas mourir pour autant. Mais en revanche, quand il arrive et voilà, une partie du maquis se disperse et qu'il faut les sauver, soit on les aide et on peut les sauver, mais si on ne les aide pas, ça veut dire qu'on les envoie à la mort. L'enjeu n'est pas le même.
Trouillard pour les petites choses, héroïque pour les grandes choses.
C'est très intéressant. Moi, je n'avais pas réfléchi à ça. Et effectivement, je trouve ça très intéressant parce que de la même façon, on va avoir les comportements des paysans qui vont sauver les enfants juifs quand il va falloir les protéger de la déportation et qui vont faire ça alors même qu'il y a un vrai danger. Oui. Il y a un vrai danger. Ah
oui. Donc il y a une ambiguïté.
Qui fait le terme d'ambivalence est très important. Pierre Laborie insiste beaucoup là-dessus. L'ambivalence est au cœur des comportements collectifs et individuels pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et ce que je vous dis là, je donne un exemple parce qu'il est clair, mais j'en aurai deux, trois autres du même type, si vous voulez. Les gens ont une attitude ambiguë en fonction des circonstances.
Non, mais là je crois que Péchanski vient de l'expliquer assez bien, quoi. Même si c'est très surprenant.
Et ben voilà.
Vive Péchanski. En un mot, l'obsession de Pétain aujourd'hui, en 2015, je veux dire, 70 ans après, comment vous...
C'est extraordinaire. C'est quelque chose... Alors d'abord, il y a un rapport quand même particulier des Français à l'histoire, plus que d'autres pays, sans doute, parce qu'ils considèrent que, vieux pays, ils ont ça dans leur identité. Et il y a un rapport à la Deuxième Guerre mondiale qui tient à cette singularité... qui est l'existence d'un régime de collaboration. On n'est pas simplement dans, on avait les Français, et puis il y a les Allemands qui viennent occuper, et puis on fait ce qu'on peut, on résiste, on ne résiste pas. Vous avez en plus un régime qui fait le choix de la collaboration, et ça va être un enjeu récurrent avec des évolutions. La mémoire est dans l'histoire. La mémoire n'est pas quelque chose de figé. Et par exemple, l'image de Pétain, pendant très longtemps, va être une image ambivalente. Hein. Vous avez plus du tiers de la population qui considère qu'on a eu tort de le condamner.
Aujourd'hui ?
Non. À partir de 45, 46,
50, etc. 50,
voilà, 50. Et puis le basculement se fait au début des années 90. On a un changement de ce que j'appelle le régime de mémorialité. C'est-à-dire que l'image de Vichy, dans la configuration mémorielle que les Français ont de cette période-là, l'image de Vichy change radicalement. Et vous avez un effondrement de l'image de Pétain parce que l'image de Pétain devient indissolublement liée à l'image de la victime juive qui termine dans les chambres à gaz de Birkenau. Et donc cette association-là tire Pétain vers le bas et maintenant l'image de Pétain même est tellement basse que la fille Le Pen est obligée de se démarquer de son père sur cette question-là et que l'isolement du père se fait sur la référence au passé.
Très bien, écoutez, merci à tous les deux pour cette conversation passionnante. J'espère de tout mon cœur que votre chauffeur de taxi pakistanais pourra voir cette émission d'une manière ou d'une autre, de même que d'ailleurs tous les abonnés qui y ont appris plein de choses. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.